Il suffit de se projeter juste un instant, en plein cœur de Casablanca.
Ouais.
À la tombée de la nuit, tu vois.
L'ambiance nocturne.
D'un côté, bah, t'as le bruit incessant de la circulation, et de l'autre, juste posé là, sur un coin de trottoir, un camion entièrement recouvert de néons éclatants.
Ah oui, le fameux contraste.
Exactement. Un truc totalement inspiré de l'esthétique du quartier de Shibuya au Japon, avec des écrans qui diffusent des scènes d'animation japonaise, de la J-pop qui résonne à fond dans l'air. Et depuis le comptoir, on y sert quoi? Des tacos à la harissa et des ramen fumants.
C'est un autre monde, quoi.
Carrément, on est très très loin du classique sandwich de coin de rue un peu triste.
C'est le moins qu'on puisse dire, ouais.
Aujourd'hui, notre exploration nous plonge tête la première dans cet univers. Un univers en pleine ébullition au Maroc en ce moment, la révolution de la street food. Et plus particulièrement, ce phénomène fascinant des food trucks à thème.
Un très gros sujet.
Oui, très lourd. Pour décortiquer tout ça, on a épluché un guide qui est franchement extrêmement détaillé. Il a été publié par la plateforme spécialisée monprojet.ma en avril 2025.
Une vraie mine d'or, ce document.
Totalement. Et notre mission pour cette analyse approfondie, c'est de comprendre la recette presque magique qui permet de fusionner une mobilité totale, une créativité débridée et une rentabilité implacable.
Tout ça dans un marché de la restauration rapide qui est en pleine mutation.
Voilà. Bon, décortiquons un peu tout ça. Quand on se penche sur ces sources, l'analogie qui vient immédiatement à l'esprit, enfin pour moi en tout cas, c'est que le food truck d'aujourd'hui n'est plus du tout une simple cuisine sur roues.
Ah non, plus du tout.
C'est devenu une véritable scène de théâtre ambulante.
C'est une métaphore très juste, vraiment. Mais il faut bien comprendre que ce théâtre, il ne s'est pas monté par hasard.
C'est-à-dire?
Le décor répond à une réalité macroéconomique implacable. Les données qui sont soulignées par la Fédération nationale de la restauration rapide, qu'on retrouve dans nos documents, elles montrent que ce secteur capte désormais près de 40% des dépenses alimentaires hors domicile au Maroc.
40%. C'est énorme en fait.
Ah mais ce n'est plus un marché de niche, hein. C'est un raz-de-marée.
Ouais.
Le truc, c'est de savoir qui tient la barre de ce navire. C'est la tranche des 18-35 ans.
La fameuse génération ultra connectée.
Exactement. Une génération urbaine dont la vie sociale est littéralement, mais littéralement rythmée par les réseaux sociaux.
Donc forcément, les attentes ne sont plus les mêmes.
Voilà. Pour ce public précis, le simple fait de s'alimenter à l'extérieur a complètement muté. Ce n'est plus simplement répondre à un besoin physiologique, vite fait, entre deux cours ou deux réunions.
On ne veut plus juste remplir son estomac.
Non, c'est la recherche frénétique d'une esthétique, d'un concept global, d'une expérience visuelle et gustative qu'ils vont pouvoir photographier, partager instantanément et surtout vivre collectivement.
Et c'est tellement flagrant quand on lit l'article de monprojet.ma, parce que l'offre classique, enfin celle avec laquelle beaucoup ont grandi, que ce soit à Rabat, Marrakech ou Tanger, elle semble soudainement très terne à côté.
Ah elle prend un coup de vieux, c'est sûr.
Carrément. Les éternels burgers génériques, tu sais, les crêpes au chocolat ou les sandwichs standardisés, ils n'ont plus d'identité.
Ils sont devenus invisibles.
C'est ça. L'article insiste vraiment sur un besoin presque viscéral de nouveauté chez ces consommateurs urbains. Et pour exister sur ce marché aujourd'hui, il ne s'agit plus juste de faire du bon, il faut frapper fort.
Ouais, marquer les esprits.
Il faut des concepts mémorables. D'ailleurs, les sources parlent de thèmes culturels marocains qui sont poussés à l'extrême. On n'est plus dans la petite vente de grillades au coin de la rue, on parle carrément d'un revival de la culture du rif ou du sousse.
Avec une vraie direction artistique derrière.
Oui, et le concept du désert berbère, par exemple, ça m'a particulièrement interpellée.
Ah, celui-là est incroyable.
Non mais imagine la logistique de fou. C'est un camion qui se déploie avec de véritables tentes nomades.
Ouais, des dizaines de coussins berbères ultra colorés.
Et le tout éclairé par la lueur de grosses lanternes en cuivre martelé. L'idée, c'est vraiment de créer une bulle temporelle au milieu du béton urbain.
Exactement.
Les clients s'assoient là, en pleine ville, pour déguster des plats qui mijotent lentement. C'est fou.
Et l'innovation va même chercher bien au-delà des frontières locales, en fait. Pour créer de véritables chocs culturels, les sources documentent l'émergence d'une fusion internationale qui est particulièrement audacieuse.
Ouais, la créativité n'a plus aucune limite.
C'est un terrain de jeu géant. On voit l'intégration de la harissa dans un pur burger américain, ou l'invention du taco marocain, ou encore, et ça c'est dingue, ce pad thaï complètement revisité avec du cumin.
Ah oui, le pad thaï au cumin, fallait oser.
Fallait oser, ouais. Et comme l'illustrait l'exemple de Casablanca dont tu parlais en introduction, l'expérience sensorielle, elle est totale. Ce camion aux couleurs du Japon, avec la musique, les néons, bah, il ne vend pas seulement un repas. Il vend un microcosme. Il te prend et il te transporte à l'autre bout du monde juste le temps d'une pause déjeuner.
Et le niveau de détail est vertigineux quand on y pense. Dans l'article, on trouve des concepts qui franchement frôlent soit l'absurde, soit le génie pur. Ça dépend du point de vue.
C'est souvent la frontière entre les deux. Hein.
C'est clair. Par exemple, un food truck dédié à 100% à l'avocat.
Ah oui, décliné sous toutes ses formes possibles.
Voilà. Ou alors un bar à céréales mobile, complètement inspiré de la culture du brunch californien. Ou mon préféré, un coffee truck, avec une esthétique purement vintage.
Ah, avec le mobilier rétro et tout.
Ouais, du formica, les baristas en tenue d'époque, et une bande-son exclusivement composée de jazz.
C'est super pointu.
Chaque boulon du camion, chaque vêtement du staff, l'odeur de l'emplacement, tout est pensé comme un feed Instagram. C'est parfaitement curé. Mais bon, là, il y a quand même une petite dose de scepticisme constructif qui s'impose. Mettre autant d'énergie et d'argent dans un camion 100% avocat, bon, c'est spectaculaire en photo.
C'est sûr que ça fait des likes.
Mais est-ce que c'est vraiment un modèle économique durable pour l'entrepreneur? Enfin, on ne risque pas de tomber dans le piège du coup de com' éphémère, le truc qui s'essouffle dès que la tendance change sur TikTok ou Instagram?
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut vraiment changer de prisme pour analyser ça. Dans notre économie actuelle, ce qu'on appelle souvent l'économie de l'attention, ce design immersif d'une telle précision, ce n'est absolument pas un caprice d'artiste.
Ce n'est pas qu'un gadget visuel.
Pas du tout. C'est le moteur principal de la croissance organique de l'entreprise. Ciblons un peu le contexte. Ces camions, ils visent une clientèle jeune, urbaine.
Ouais.
Et ils vont se positionner stratégiquement, à quelques pas des grands campus universitaires, sur les plages très fréquentées en été ou en plein cœur des quartiers d'affaires.
Là où il y a le flux, quoi.
Voilà. Et l'esthétique radicale du camion, en fait, bah, elle remplace purement et simplement le budget marketing traditionnel.
Ah, c'est intéressant vu comme ça.
Bah oui, le contenu Instagrammable qui est généré spontanément par les clients, ça crée un bouche-à-oreille numérique qui est d'une puissance redoutable. C'est gratuit et c'est massif.
Donc, le décor et l'ambiance, c'est carrément l'argument qui justifie le déplacement.
Exactement. In fine, ce n'est pas forcément autour du produit que se fidélise la communauté, mais bien autour de la marque forte que représente ce petit microcosme roulant.
D'accord. Donc, le marketing se fait tout seul par les clients. C'est vraiment ingénieux.
Ouais.
Mais toutes ces lanternes en cuivre, ces écrans LED qu'il faut importer, cet aménagement sur mesure pour cuire un pad thaï dans la rue...
Bah, ça coûte cher.
Bah oui, ça se paie. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que notre exploration doit basculer de la théorie créative à la viabilité financière, pure et dure.
Le retour à la réalité.
Froid et brutal. Car le nerf de la guerre, on le sait, pour tout entrepreneur, bah, ça reste les chiffres. Est-ce que ce n'est pas un suicide financier d'investir des sommes pareilles dans de la déco ambulante? Comment la magie opère-t-elle sur un plan strictement comptable?
Eh bien, le document de monprojet.fr aborde cette question des coûts d'acquisition avec énormément de pragmatisme. Et on découvre, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que l'investissement est extrêmement élastique.
Élastique, c'est-à-dire?
La barrière à l'entrée, tu peux la franchir de différentes manières. Pour un lancement modeste, tu prends un micro-truc, genre une petite remorque ou une camionnette très compacte.
D'accord.
Là, ça demande un budget qui oscille entre 40 000 et 80 000 dirhams.
Bon, ça reste envisageable.
Voilà. Après, si l'entrepreneur veut un espace de travail un peu plus grand, il peut opter pour un food truck d'occasion, avec un aménagement standard. Là, on grimpe entre 80 000 et 130 000 dirhams.
Ok, on monte en gamme.
Et enfin, si on vise ce fameux concept ultra-immersif dont on vient de parler, avec un design radical et tout, bah, il faut se tourner vers du matériel neuf ou un aménagement totalement sur mesure. Et là, le budget explose.
Et j'imagine, on est dans les combien?
On se situe facilement entre 180 000 et 350 000 dirhams.
Ah ouais, 350 000 dirhams pour un camion?
Ouais, ça calme.
C'est un sacré pari. Face à ces disparités de coûts, l'analyse des sources est hyper précieuse. Car l'article modélise deux hypothèses concrètes de rentabilité.
C'est la partie la plus croustillante.
Commençons par décortiquer l'hypothèse 1. C'est ce qu'on pourrait appeler le modèle de proximité.
Le modèle de quartier, oui.
L'idée, c'est d'installer un food truck de quartier, disons un concept de sandwich marocain revisité, juste aux abords immédiats d'un grand campus universitaire.
À Fès ou à Meknès, par exemple.
Voilà. L'investissement initial ici, il est contenu. Le document l'évalue entre 100 000 et 120 000 dirhams. La stratégie ne repose pas sur des foules immenses. On cherche un objectif quotidien régulier, capter entre 40 et 50 clients par jour.
Ce qui est totalement faisable.
Surtout que le panier moyen reste très accessible pour des étudiants. On parle de 30 à 40 dirhams par repas. Donc on est sur du flux tendu, mais parfaitement maîtrisé.
Et la mécanique de ce modèle, en fait, elle repose sur la constance. En se basant sur un mois de 25 jours ouvrés, avec ce trafic-là, et ce panier moyen, le chiffre d'affaires mensuel généré, il se situe entre 37 500 et 50 000 dirhams.
Et ça, c'est avant les charges?
Bien sûr. Il faut soustraire les charges de l'activité. Le carburant, l'entretien du véhicule, potentiellement le salaire d'un employé à mi-temps si besoin, et bien sûr l'achat des matières premières.
La base, quoi.
La base. Mais une fois tout ça déduit, le document estime un bénéfice net allant de 7 000 à 12 000 dirhams par mois.
7 à 12 000 net par mois?
Ouais. Et la force de ce modèle, c'est vraiment sa récurrence. L'entrepreneur y capitalise sur l'habitude, la routine de l'étudiant ou de l'employé du coin, qui va revenir deux, voire trois fois par semaine.
C'est une belle affluence.
Ça ne crée pas des pics de stress insurmontables, mais ça assure une trésorerie hyper stable.
Bah, si on devait utiliser une analogie financière pour ce premier modèle, on pourrait presque dire que c'est l'équivalent d'un placement sur un livret d'épargne garantie.
C'est exactement ça.
La croissance est linéaire, le risque d'effondrement est super faible, parce que la clientèle étudiante a toujours faim.
C'est une valeur sûre.
Et le rendement, sans être mirobolant, il tombe à chaque fin de mois de manière très rassurante.
Mais alors, il y a l'autre côté du spectre.
Oui, parce que l'article nous plonge ensuite dans l'hypothèse 2, le modèle événementiel premium. Et là, on ne joue plus du tout dans la même cour. On retrouve nos fameux concepts spectaculaires, genre le street food Tokyo ou le coffee truck vintage haut de gamme.
Là, on sort l'artillerie lourde.
C'est ça. L'investissement initial, on l'a dit, flirte avec le plafond des 350 000 dirhams. Et l'ambition, ce n'est plus d'attendre sagement en bas d'une faculté, c'est d'aller chasser l'événementiel.
Se déplacer d'un grand festival de musique à un marché artisanal chic.
Voilà, dans les grandes métropoles. Les prix de vente accompagnent ce positionnement exclusif. On passe tout de suite à 20 ou 30 dirhams pour une simple boisson artisanale et 50 à 80 dirhams pour un plat chaud.
Et la nature même de l'exploitation change du tout au tout. Ce n'est plus du tout de la constance. C'est du volume concentré sur des fenêtres de temps qui sont hyper courtes.
C'est très intense.
L'entrepreneur va participer à une poignée d'événements majeurs dans le mois, mais lors de ces journées-là, attention, il doit pouvoir absorber des cadences infernales.
Genre combien?
On part de 100 à 150 clients par jour. Sur le papier, du coup, le chiffre d'affaires explose pour atteindre la fourchette des 80 000 à 120 000 dirhams mensuels.
Ah oui, on double, voire on triple.
Évidemment, les charges subissent la même pression à la hausse. Le personnel doit être plus qualifié pour tenir cette cadence de fou. Les ingrédients spécifiques, genre pour le pad thaï ou les sushis, coûtent plus cher. Et surtout, surtout, l'emplacement sur ces festivals premium se paie au prix fort.
C'est pas donné.
Les charges globales peuvent s'élever jusqu'à 60 000 ou 80 000 dirhams.
Ouch!
Mais bon, la rentabilité finale justifie largement le risque. Le bénéfice net, lui, bondit entre 20 000 et 30 000 dirhams par mois.
20 à 30 000 net?
Ouais. À ce rythme-là, le lourd investissement initial de 350 000 dirhams, il peut être intégralement remboursé en une période record de 6 à 10 mois.
6 à 10 mois pour rembourser un tel crédit. L'analogie du livret d'épargne s'évapore complètement ici.
Ah bah là, on n'y est plus du tout.
Ce modèle événementiel, il s'apparente plutôt à du capital risque. L'entrepreneur met une somme énorme sur la table. Il s'expose aux aléas de la logistique lourde, aux annulations de festivals s'il pleut.
La prise de risque est maximale, quoi.
Mais si le concept séduit le public, les rendements sont fulgurants. Par contre, quand on lit entre les lignes de cette rentabilité, il y a une révélation qui m'a laissé super perplexe.
Laquelle?
Le plat principal hyper créatif, tu sais, celui qui attire l'œil sur Instagram, eh bien ce n'est apparemment pas ce qui fait vivre le camion. C'est même presque un produit d'appel, en fait. Comment c'est possible?
Alors, si l'on relit cela à la vision d'ensemble, c'est toute l'ingéniosité de l'ingénierie des menus qui est détaillée dans nos sources. Les leviers stratégiques qui garantissent la survie de ces camions, peu importe le modèle d'ailleurs, ils se cachent dans les détails.
D'accord.
Le secret de ces marges insolentes, il ne réside pas dans le taco à la harissa ou le burger premium. Les postes qui dégagent la rentabilité la plus massive, ce sont les à côté.
Les fameux à côté.
Le document est formel là-dessus. Les boissons et les desserts affichent des marges ahurissantes de 50 à 70%.
70% de marge?
Ouais. L'art du restaurateur ambulant, c'est donc de ne jamais, au grand jamais, vendre le plat seul.
Il faut la formule.
Toujours l'inclure dans une formule pour gonfler mécaniquement le panier moyen.
Mais c'est fou quand on y pense. Le client vient pour l'expérience visuelle du pad thaï, mais au final, c'est la vente croisée du petit soda ou de la petite douceur sucrée qui paye véritablement le loyer et les salaires à la fin du mois.
C'est ça la réalité du business.
Une marge de 70%, ça change complètement la perspective de ce métier.
Et la maîtrise des coûts, elle va encore plus loin. La règle d'or soulignée par l'article, c'est ce qu'on appelle le « food cost » ou le coût matière.
Ouais.
Il doit être verrouillé sans aucune pitié. Il ne doit sous aucun prétexte dépasser 30 à 35% du chiffre d'affaires.
C'est très strict.
Très strict. Et pour tenir cet objectif sur un espace de cuisine aussi réduit, l'arme absolue, c'est la carte ultra courte. Proposer 3 ou 4 plats maximum, bah, ça permet une gestion des stocks millimétrée. Et ça élimine presque totalement la perte financière liée au gaspillage alimentaire.
Pas de perte, pas de fuite d'argent.
Exactement. Enfin, l'étude géomarketing est cruciale. Le camion doit impérativement cibler des zones où le flux piétonnier garantit environ 500 clients potentiels par heure.
500 clients par heure.
En dessous de ce ratio, l'article explique que le modèle s'essouffle assez vite.
Et d'ailleurs, ce ratio de 500 clients potentiels par heure, bah, ça nous amène directement au point de friction majeur de cette industrie.
Ah, le fameux mur de la réalité.
Voilà. Si l'on prend juste un instant pour résumer, on a des marges sur les boissons à 70%, un retour sur investissement possible en moins d'un an et une demande exponentielle de la part des jeunes urbains.
Le rêve sur le papier.
Sur le papier, oui. Dans une logique de marché totalement libre, les trottoirs de Casablanca, la corniche de Rabat ou le centre de Tanger devraient être totalement saturés de food trucks flambant neufs qui se livrent une guerre sans merci.
Mais on sait que ce n'est pas le cas.
Or, ce n'est pas le cas. Il y a un goulet d'étranglement sévère. Et c'est ici qu'on quitte la douce euphorie des tableurs financiers pour se heurter à la réalité souvent très abrupte du terrain, le fameux labyrinthe administratif marocain.
C'est le cadre légal, ouais. Et c'est le mur sur lequel se brisent beaucoup, beaucoup d'illusions. Vendre de la nourriture sur l'espace public au Maroc, bah ça ne s'improvise pas du tout.
Non.
Ça requiert un sésame très convoité, l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal à des fins commerciales.
C'est long, rien que le nom fait peur.
Ouais. Et il ne s'agit pas juste d'ouvrir une simple patente ou de s'enregistrer au registre du commerce, tu vois. Il s'agit de privatiser, de manière temporaire, un morceau de trottoir qui appartient à la collectivité. Et ça, l'administration le prend extrêmement au sérieux.
Et d'ailleurs, la lecture de la procédure dans l'article, franchement, ça donne quelques sueurs froides, malgré sa prétendue modernisation.
La digitalisation.
Oui, le portail national rocas.ma a digitalisé le processus, ce qui est présenté comme une belle avancée. Sur le papier, tout se décline en 6 petites étapes. On commence par saisir sa demande en ligne. Facile.
Facile, oui. Au début.
Mais ensuite, il faut constituer un dossier virtuel colossal. L'attachement de la copie de la carte d'identité, la CIN, c'est que l'échauffement. Il faut fournir des plans de masse hyper précis de l'emplacement convoité, des photos détaillées de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule pour prouver son aspect professionnel.
Il faut aussi justifier d'un statut légal, clair.
Oui, comme l'auto-entrepreneuriat ou la création d'une CRL. Et puis, s'y ajoutent les indispensables attestations sanitaires. Prouver que le camion respecte bien la chaîne du froid. Et bien sûr, avoir une assurance responsabilité civile en béton.
Et c'est pas fini.
On parle la décision du président de la commune et une signature électronique.
Et alors, cette liste d'étapes qui est déjà bien dense en fait, elle masque une complexité territoriale qui est redoutable.
Oui, parce que ça dépend d'où tu es.
Exactement. La standardisation nationale se heurte aux habitudes locales. Prenons le cas de Casablanca, qui est bien détaillé dans l'article. La demande ne se dépose pas auprès d'un bureau central unique. Le dossier est géré au niveau des arrondissements.
D'accord.
Donc, selon que l'on vise un emplacement à Aïn Chok, au Maharif ou à Sidi Bernoussi, l'interlocuteur change complètement. Et le délai de traitement annoncé s'étire en moyenne de 2 à 6 semaines.
2 à 6 semaines d'attente.
Et à l'inverse, si un entrepreneur tente l'aventure à Marrakech ou à Agadir, c'est généralement la commune centrale qui gère tout. Et il ne faut surtout pas oublier les obligations annexes, comme l'enregistrement impératif à la CNSS pour déclarer ses employés.
Sinon, c'est fini.
Sans ça, l'aventure s'arrête net.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond ? Pour vraiment prendre la mesure de cette réalité, il suffit de s'attarder sur les interactions de la communauté qui ont suivi la publication de l'article sur monprojet.ma.
Les commentaires sont édifiants.
Ce ne sont plus des concepts abstraits, ce sont de vraies personnes. Prenez Safa, par exemple. Dans les commentaires, elle est visiblement super inspirée par la dimension créative du food truck. Mais son enthousiasme est totalement freiné par l'anxiété bureaucratique.
Je me souviens de son commentaire, oui.
Elle se demande très concrètement si, en tant que femme seule, portant un projet, elle parviendra à naviguer dans les arcanes de ses autorisations communales sans se faire éconduire.
C'est une vraie peur.
Ou encore Khalid. Lui, il a le financement, il a un projet solide de grillade traditionnelle revisitée pour Casablanca, mais il bute complètement sur l'obtention de cet accord de stationnement géographique.
Ça bloque.
C'est à se demander si le jeu en vaut la chandelle, honnêtement. L'administration vend un portail numérique fluide en 6 étapes, ce qui donne l'illusion que tout se fait en un clic.
Mais la vraie vie, c'est autre chose.
Bah oui, quand la vraie vie reprend le dessus, attendre jusqu'à 6 semaines dans un flou total pour qu'une commission d'arrondissement statue sur votre sort, alors que tu as déjà contracté un crédit personnel de 200 000 dirhams pour faire construire ce fameux camion sur mesure, gire comme un destructeur de rêves.
C'est la réaction naturelle face à cette lourdeur. Mais, et cela soulève une question importante, l'analyse stratégique exige de renverser cette perspective.
Ah bon ? Comment ça ?
Oui, cette bureaucratie est lente, oui, elle est parfois anxiogène, et elle demande une résilience de fer de la part de l'entrepreneur. Mais en réalité, ce n'est pas qu'un frein, elle agit secrètement comme un filtre protecteur d'une puissance redoutable.
Un filtre protecteur ? Pour qui ?
Pour ceux qui réussissent. Il faut imaginer cette complexité administrative un peu comme les douves d'un château fort. Une fois que l'entrepreneur a survécu à ce labyrinthe, qu'il a réuni chaque document, passé l'examen de la commission et obtenu cette fameuse autorisation numérique.
Il est intouchable.
Il détient un avantage concurrentiel absolu. Le permis d'occupation, ce n'est pas un droit de circuler librement. Il est lié à un point GPS très précis.
Ah oui, c'est vrai.
Cela signifie que l'administration garantit à l'exploitant le quasi-monopole de son emplacement. Son camion situé sur la corniche ou devant l'université, il est sanctuarisé.
Donc personne ne peut venir se coller à lui.
Voilà. Il n'aura pas la mauvaise surprise le lendemain matin de voir 10 autres camions concurrents installés sur son trottoir pour lui casser les prix. La barrière à l'entrée qui est si difficile à franchir devient la garantie même de sa rentabilité future.
L'obstacle devient le bouclier. C'est une vision incroyablement cynique, mais d'une logique implacable.
C'est le monde des affaires.
Si on prend un peu de hauteur sur cette longue plongée au cœur de nos sources, le panorama est vraiment passionnant. Le food truck au Maroc, tel qu'il se dessine à l'horizon 2025 ou 2026, est bien plus qu'une simple tendance culinaire éphémère.
C'est une vraie mutation.
C'est un modèle d'affaires hybride qui se situe au carrefour exact de l'innovation culinaire, avec ses fameuses fusions audacieuses du design expérientiel, pensé de A à Z pour briller sur les réseaux, et d'une micro-économie de la marge où l'on maximise froidement la rentabilité sur le moindre soda vendu.
Tout à fait.
Et le tout est soutenu par cette charpente administrative complexe, en pleine mutation digitale, qui exige de l'entrepreneur autant de patience politique que de rigueur comptable.
Et c'est vraiment le cœur du sujet. Cette immersion, elle nous prouve que la restauration de rue s'est métamorphosée en un véritable laboratoire expérimental de l'entrepreneuriat moderne.
Pour quiconque observe l'évolution de la dynamique urbaine dans des villes comme Rabat, Agadir ou Fès, ou pour tous les curieux qui nous écoutent et qui s'intéressent aux nouveaux mécanismes de création de valeur, l'image du vieux camion vendant des sandwichs bas de gamme, elle a vécu.
C'est de l'histoire ancienne.
Totalement. Nous avons affaire à un écosystème avec ses règles de survie très strictes, ses propres codes de communication silencieuses via le design et surtout un potentiel de croissance qui est spectaculaire.
On l'a vu avec les chiffres, hein, oui.
On peut commencer avec un micro-truck de quartier et finir avec une flotte immense qui domine les grands événements nationaux. L'évolution de ce marché, ça sera l'un des marqueurs forts de l'économie urbaine de demain, c'est certain. Et justement, cette notion d'évolution vertigineuse, ça soulève une ultime piste de réflexion. Une idée qui en fait émerge un peu en filigrane de l'article et qu'il est impossible d'ignorer avant de clore cette analyse pour notre auditoire.
C'est quoi ?
Les sources mentionnent ouvertement que le but ultime pour les concepts les plus florissants, ce n'est pas de rester isolé, c'est de devenir de véritables marques, de créer des flottes, voire de basculer dans le modèle ultra-standardisé de la franchise à travers tout le pays.
Ah oui ! C'est le grand paradoxe qui plane sur l'avenir de cette industrie. Imaginons un instant la trajectoire de ces projets indépendants. Le désert berbère ou le camion à tacos de Shibuya rencontrent un succès foudroyant et indiscutable.
Ils cartonnent, normal.
Les entrepreneurs, portés par ce succès, décident de se multiplier. Ils créent des manuels opératoires, ils standardisent les recettes au gramme près pour des dizaines d'employés.
Ils rationalisent tout.
Ils rationalisent les décors pour qu'ils coûtent moins cher à dupliquer. en cherchant l'expansion maximale et la rentabilité d'échelle propre à la franchise, le danger est immense.
C'est ça, justement. Ne risquent-ils pas, au final, d'anéantir exactement ce qui a fait leur succès ?
C'est tout le risque, oui.
Cette âme street, cette authenticité rebelle, cet aspect artisanal et unique qui poussait le client à venir photographier le camion. En voulant conquérir tout le territoire, ces formidables scènes de théâtre ambulante pourraient tristement se transformer en de simples usines de restauration rapide.
Des usines sur roues.
Exactement. Tout aussi lisses et génériques que les chaînes traditionnelles qu'elles voulaient combattre à l'origine.
Le fameux serpent qui se mord la queue.
C'est le vieux combat éternel entre la pureté de l'artisanat de rue et l'appel irrésistible du succès commercial de masse. Comment grandir sans perdre son âme ?
Vaste question.
C'est un défi extrêmement complexe qui redessinera sans aucun doute le paysage de nos villes. Nous allons laisser cette réflexion en suspens pour tous les esprits curieux qui nous accompagnent aujourd'hui, en refermant ici cette plongée au cœur de nos sources.